Eh non, ce n'est pas du gloubi-boulga. C'est de l'herbe. De l'herbe.
Ah, dichats à toutes, c'est Dany Baillet, le gourmandas. Le gourmandas, pourquoi? Parce que dans notre belle langue gasconne, le suffixe a une importance capitale. Regardez par exemple un chien, une can. Si vous y ajoutez hotte, c'est un cagnotte, un petit chien. Si vous y ajoutez oum, ça fait un cagnoum, un mignon petit chien. Et si vous ajoutez a, ça fait une cagnasse. Et là, ça se passe de commentaires. Adichats à toutes, c'est le gourmandas, bien sûr. Donc, jusque-là, nous avons fait pas mal de voyages autour de la gastronomie, de choses très gourmandes. Nous avons parlé de bons plats, nous avons parlé de bons vins, de belles régions de plats et de vins, et de belles associations. Eh bien, on va continuer. Pourquoi pas, puisque tout ça est quand même très agréable et que nous sommes dans une période autour de laquelle, si nous ne parlons pas de gastronomie aujourd'hui, nous n'en parlerons jamais. C'est bien sûr l'automne, la plus belle période pour la chasse et pour les produits. Et nous allons parler aujourd'hui de la palombe, l'incontournable palombe, celle qui nous anime à nous les Gascons, avec naturellement sa chasse et tout ce qui va autour, bien évidemment. Alors la palombe, rapidement, qui est-elle? Quelle est sa différence avec les autres pigeons, puisque c'est un pigeon? Comment se fait sa migration? Où vit-elle? Quand arrive-t-elle? Et quels sont, autour de la tradition, les différents modes de chasse à la palombe? On parlera essentiellement de la chasse en palombière, la palombière avec le tir au fusil, la palombière avec la chasse sans fusil au filet, et la palombière de montagne, plutôt du Pays Basque, avec le filet de montagne. Nous parlerons aussi un peu de l'affût, de la chasse à l'affût opposé. Nous parlerons bien sûr aussi du tir au passage, du tir au vol, qui se pratique plus en montagne, mais aussi sur les lisières de bois et de champs. Nous parlerons rapidement bien sûr de la capture de la palombe, comment est organisée sa chasse, quelles sont ses traditions, qui sont un peu les vacances des Gascons. Cette chasse en palombière, avec sa préparation, avec plus tard bien sûr naturellement après sa capture, ben nous parlerons quand même aussi un peu de gastronomie, c'est-à-dire de préparation de la palombe. On parlera essentiellement des deux recettes principales, la recette du salmi de palombe, plutôt pour les palombes qui ont un peu voyagé, et de la palombe en crapaudine, celle que nous faisons pour les jeunes palombes très tendres, que nous appelons ici les pipiou. Voilà, le salmi, donc, bien sûr, avec sa partie cuisson, avec des morceaux préparés à l'avance, dans du hachis, avec des légumes. Et ensuite, donc, la palombe plus jeune, que nous ferons, qui est plus tendre, que nous ferons à la goutte de sang, comme l'auraient voulu tous les grands chefs, et comme le veulent encore tous les grands chefs, pour nous régaler. Alors, pour revenir à la palombe, quelle est la différence entre la palombe, le pigeon ramier, de son vrai nom, avec les autres? Eh bien, le ramier, c'est le plus gros des pigeons, à savoir qu'il pèse entre 300 et 550 grammes avec une largeur de prise au vent, donc entre ses ailes, nettement au-dessus, puisqu'il est jusqu'à 70-75 cm, c'est quand même important. Il est au-dessus des deux autres variétés de pigeons, qui sont le pigeon bisé, que l'on trouve un peu partout, notamment dans les villes, même si la palombe aussi a colonisé les villes aujourd'hui, et le pigeon colombin, le plus petit, qu'on appelle parfois aussi le rat des villes, à tort ou à raison, qui est un peu envahissant, et envahissant par le fait que beaucoup de gens le nourrissent et donc lui font oublier qu'il doit être autonome pour sa nourriture et l'amène à rester dans des quartiers dans lesquels il fait énormément de dégâts, notamment par les fientes. Donc tout le monde connaît toute cette histoire. La palombe, donc, est en dehors de tout ça. On va considérer qu'elle migre pour l'essentiel, c'est-à-dire qu'elle se déplace. Dès qu'elle passe le nom de l'Adour et qu'elle va vers le sud, on l'appelle palombe. Hein. La migration va des pays de l'Est, pour l'essentiel, vers l'Espagne, l'Italie et la France, pour l'Afrique du Nord, pour essayer de trouver des temps plus chauds pour passer l'hiver et de quoi manger, bien évidemment. L'autre préoccupation n'est pas seulement la nourriture, mais elle va avec. C'est bien sûr le cadre idéal pour nidifier 2 à 3 fois par an. 2 petits en moyenne naissent de l'union des palombes qui pratiquent leur très belle parade amoureuse, souvent en vol, ce qui nous échappe et c'est bien dommage. Donc voilà, la palombe, on la reconnaît facilement, pour nous les puristes gascons, on la reconnaît facilement à son vol puisqu'elle a des ailes pointues et droites, pendant que le pigeon a des ailes un peu plus rondes, et aussi à sa collerette blanche à la base du cou. plus cette collerette blanche est importante et plus il y a des chances que ce soit un mâle. Alors elle peut vivre en ville comme à la campagne, elle peut être sédentaire, elle peut prendre le passage, prendre son envol pour migrer dans les pays du sud, mais elle reste de plus en plus dans nos régions et on la trouve de plus en plus sur nos bois toute l'année. Alors quand on dit qu'elle peut vivre à la campagne, c'est vrai, elle peut vivre aussi en ville sur votre fenêtre ou des petites haies qui vous séparent du jardin de votre voisin, dans les branches basses des arbres des villes. Et on la trouve un peu partout et elle s'est très très bien acclimatée de la ville. Alors son voyage de migration se fait entre octobre et novembre pour la plus longue traversée, souvent derrière les grues, d'où le proverbe gascon « la grue qu'à la paloume au cul ». C'est-à-dire, comme vous le comprenez tous, disait mon grand-père inlassablement tourné vers le sud, les palombes sont derrière les grues, au cul des grues. Voilà, et dans les mains, dans le dos, mon grand-père scrutait le ciel et ses mouvements à longueur de journée, depuis le lever du soleil jusqu'au soir. Aucun son, pourtant aucun cri, aucun mouvement d'aile ne pouvait lui échapper. Alors un jour, je lui ai demandé « Mais pourquoi regardes-tu toujours vers le sud ?» Et il m'a répondu la chose suivante « Écoute, toi aussi regarde vers le sud, regarde dans la même direction et tu verras pourquoi je regarde vers le sud. » Effectivement, à mon tour, je l'ai fait, et c'est merveille de voir la vie foisonnante au-dessus de nos têtes, qui explique d'ailleurs certainement que tout va si vite et tout est si difficile à décrypter, qu'on est étourdi et que l'on comprend pourquoi tant de Gascons passent autant de temps dans leur palombière à scruter le ciel. Tout ceci, bien sûr, nous amène doucement à parler de la chasse à la palombe, véritable art de vivre, qui cumule art, bien sûr, parce que c'est très difficile de poser des palombes, plaisir de vivre, parce que c'est le moment des vacances, c'est le moment de l'échange avec les gens qu'on aime bien voir, d'échanger autant que de recevoir, d'observer et de faire des découvertes quotidiennes qui font de vous un être quelque part si petit et si ébloui. Alors là, bien sûr, nous entrons directement dans le monde de la tradition gasconne, si difficile à concevoir pour ceux qui jugent sans jamais avoir vu ni partagé, peut-être même sans avoir ramassé un œuf au cul de la poule. Donc dans la région, nous sommes animés autour de trois formes de chasse. La plus connue, c'est la palombière, sanctuaire royal dans lequel on peut chasser de trois façons. On peut chasser au sol, on peut chasser au filet, on peut chasser au filet de montagne quand il s'agit de la chasse du Pays Basque. On peut chasser à l'affût, on peut chasser aussi au tir, à la volée. Chasse qui se pratique en montagne ou en campagne, en lisière, des champs ou des bois. Donc la palombière, je l'ai connue, j'étais presque enfant, avec mon voisin André Ducoy et mon autre voisin Michel de la Rebouille, qui étaient des grands fanatiques de la chasse, qui ne prenaient des vacances que pour cette période-là, et seulement dans le but de chasser la palombe, de faire poser la palombe avec des artifices bien sûr plus sophistiqués que ceux de tous les autres chasseurs du pays. J'ai chassé avec eux essentiellement avec des appos sur raquette. Donc la méthode sert à simuler la pose. On étire depuis la cabane des câbles tendus en travers des branches pour actionner une raquette qui pivote vers le haut, sachant que la palombe déséquilibrée bat des ailes, simulant sa pose et faisant penser aux autres qui sont dans les vols au-dessus de nous, qu'ils sont déjà en train de se poser et qu'il faut faire de même, bien évidemment. Donc ensuite, le principal de la chasse, là, c'était du tir au fusil. On était postés et j'ai chassé aussi pendant 5 ans aux pentes avec un petit filet que nous avions installé à la fin, qui n'a pas été notre bonheur. Nous avons donc repris notre ancienne chasse à la cabane et au tir opposé. Alors la palombière, ça n'est pas simplement de la chasse comme ça, d'instinct. C'est le fruit d'une très très grande organisation. Organisation qui est donnée avec une hiérarchie très importante, celle notamment de la présence du chef de cabane, qui prête serment sur la chasse à la palombe et ses devoirs ainsi que ses droits. Un adjoint aux appos, qui entretient, qui pratique des soins tous les jours, comme le gavage avec la bouche des palombes qui sont sur les raquettes, et qui pratique toutes les actions de nature à faire poser les palombes. C'est celui qui, normalement, est le plus expérimenté après le chef de cabane. Ensuite, divers chasseurs et amis Les chasseurs tirant ensemble sur ordre exclusif, bien sûr, du chef de cabane après deux coups de sifflet, du genre... Pam ! Voilà pour vous le mimer très simplement. Le gibier, lui, est soit ramassé avec un chien ou à pied, stocké et partagé, avec les autres chasseurs, bien sûr. La chasse au filet au sol, bien sûr, c'est le grand art. Alors là, ici, pas de fusil, pas de présence d'armes à feu. Les palombes sont amenées par les apôts et l'adjoint Roukoulaïre, qui a un statut très particulier et très, très sophistiqué, qui est la personne la plus précieuse de la palombière. Les palombes, par la roucoulade, sont amenées à descendre sur le sol pour croquer des grains de maïs. Le chef de cabane, à ce moment-là, lorsque le moment s'y prête, que les palombes sont sur le sol, en train de manger, de picorer les grains, doit s'émerer, ce qu'on appelle s'émerer, c'est fermer le filet au meilleur moment, pour les capturer vivantes, bien évidemment, et pour remplacer les apôts, entre autres. Donc, ceci se passe dans un silence absolu. Les déplacements, bien sûr, sont interdits dans les tunnels pendant toute la période du travail au sol, du travail du sol. J'ai des souvenirs, bien sûr, que je ne peux éviter, que je suis obligé de vous relater, de chez l'ami Michel Baris, grand chef de cuisine à Luxeuil, qui organisait pendant toute la période de la chasse à la palombe des journées à thème gastronomiques avec beaucoup de people très en vue que nous voyons à la télé la semaine. Et le chef amenait toute sa cuisine à la palombière qui pouvait recevoir jusqu'à 30 personnes. Alors là, les pentes, les filets étaient tendus par ressort sur le côté et se relevaient dès qu'on les libérait. Et bien sûr, pendant la période de gastronomie, la chasse prédominait quand même. On était prêt à tout abandonner pour voir poser et préparer le sol et fermer ce sol, bien sûr, avec des palombes prises. Concernant la chasse aux filets de montagne, là, ici, ça fait appel à la notion de quartier ou de village, carrément. C'est une très grande organisation séculaire pour préparer des cabanes perchées tout le long des gorges de la montagne jusqu'au point le plus bas où est tendu le filet. Ce qui est absolument incroyable, on pense que les palombes passent très haut. Le but, c'est de les faire descendre à ras de terre, que les vols soient propulsés et envoyés dans un filet frontal, donc au plus près du sol. Les vols sont apeurés par l'envoi de palettes, les faletas, en basque, qui sont envoyées depuis les cabanes perchées très haut dans les arbres. Et avec le but, ce sont des raquettes blanches en bois qui simulent le passage de l'eau autour des palombes, qui a le dessous de ses ailes blanches, afin de faire baisser les vols et de les conduire en bas dans les filets frontaux tendus en travers de la gorge. Bien sûr, ceci paraît très simple comme ça. L'exercice est savant, très très complexe. Il nécessite une très très grande expertise, d'où la présence dans les villages basques de toute la population intergénérationnelle qui se réunit et qui s'unit pour cette chasse temporaire pendant la période de chasse. Pour parler ensuite de la troisième chasse, c'est la chasse à l'affût, au vol bien sûr. Le tir est précis, souvent très difficile, compte tenu du vent, compte tenu des arabesques faites par les volatiles et par la hauteur des vols qui prennent de suite naturellement de la hauteur. Alors c'est un peu l'opposé des autres modes de chasse traditionnels, le mode de chasse qui est plutôt prisé par les Girondins en Pays Basque, parfois décrié parce qu'il est un peu plus sauvage que la chasse naturellement plus sophistiquée, sans fusil, des cabanes. La palombière, on le sait, est composée de trois espaces. Ces espaces sont la cabane de pose, parce que la chasse prédomine quand même, système d'où partent tous les fils des apôts, à partir de laquelle on va organiser la pose, à travers le leurre des palombes qui volent. Ensuite, la cabane de vie, une salle à manger importante, avec souvent une cheminée et des points repos, de vieux canapés dans lesquels il est possible de faire une petite sieste salutaire, parfois en fin de repas. Et ensuite, bien sûr, des tunnels en fougère, pour voir sans être vu, qui sont la merveille des merveilles de la palombière, des tunnels souvent très longs, qui peuvent grimper le long des troncs des arbres pour aller amener le chasseur en haut d'une cabane perchée pour voir arriver les palombes de loin et pouvoir les travailler au mieux. Cet entretien des tunnels, bien sûr, et des cabanes se fait toute l'année. Il faut savoir que les chasseurs s'y rendent toute l'année à la palombière pour créer des améliorations au vu de la saison passée, pour se positionner au mieux pour la saison à venir. Certes, la chasse est primordiale et ce sont souvent les vacances des chasseurs locaux qui ne bougent pas de l'été. Vous savez que l'été, on laisse tout le flot des gens en short profitait de nos plages, aucun des chasseurs de palombes ne serait prêt à quitter sa chasse pour aller prendre des vacances en été. J'ai d'ailleurs une anecdote très simple. J'ai travaillé pendant une partie de ma jeunesse dans une banque du pays et il était extrêmement compliqué de trouver à partir en vacances en octobre puisque plus de la moitié des gens chassaient la palombe et prenaient leurs vacances à ce moment. Et l'été, par contre, c'était très facile d'obtenir des vacances en juillet et août, contrairement à d'autres entreprises. Vous voyez que la chasse à la palombe a ici une importance capitale.
Sabre un matin fut arrosé de graffitis rouges et noirs. Les murs riaient, les gens parlaient. Malédiction, c'est l'anarchie. Beauté, soleil, embrasse-nous, caresse-nous, faisons l'amour sur les pelouses de la mairie. Les flics discrets, comme toujours, rôdaient partout, comme des loups.
Allez, c'est encore le Gourmandas, on revient à nos palombes, à nos palombières, à nos tables dans les fougères et à nos bois qui sentent bon le cep. Or la vie l'emporte bien sûr sur la chasse et la capture. Et mon voisin, lui par contre, qui aime bien faire profiter tout le monde, eh bien, il vient chercher sa mère tous les jours pour déjeuner dans sa palombière avec un plat gastronomique comme nous savons faire dans les Landes. Alors on le sait, les Gascons sont gourmands. Et assurément, bon, il ne faut pas être chef de cuisine pour être chef d'une palombière. Chaque invitation vaut ici mille fois plus que dans votre salon ou dans un restaurant, même les plus sympathiques. L'ambiance de quiétude de la forêt, l'odeur enivrante de la fougère tressée fraîche, le bonheur d'être ensemble font de ce loisir un moment unique. Assurément, nous les Gascons entretenons avec la nourriture des rapports étranges. Il y a bien sûr le besoin physique, animal, celui qui vous rend un peu nerveux, susceptible sur le coup de midi, quand votre estomac commence à se rappeler à votre bon souvenir. Et puis quand, grâce à quelques leurres habilement lancées, une tartine de pâté, un quignon de pain, une rondelle de saucisson, ce besoin impérieux a été sinon satisfait, au moins tempéré, et surgissent alors l'envie, le désir qui, eux, ne se limitent pas à un simple gargouillis. Alors l'appétit succède à l'appétence. Nous voilà redevenus humains, intelligents, sensibles. Le mot « anchois » évoque alors un week-end amoureux au bord de la mer. Dans l'odeur des cèpes se glisse le souvenir d'une mamie. Vous savourez une tranche dorée, vanillée, de pain perdu, et passe alors devant vos yeux le sourire de vos enfants. Malheureusement, s'est intégrée à tout cela une troisième notion, la quête d'une reconnaissance de classe, comme on disait au XXe siècle. La recherche d'un statut social, ce n'est plus « dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es », mais « dis-moi où tu manges, je te dirai qui tu es ». Et là, on ne mange plus pour soi, mais pour les autres. La cuisine devient ostentation et les plats sombres dans l'exhibitionnisme. On s'affiche et l'univers de la bouffe se met à ressembler à celui de la bagnole ou de la fringue. Elle fait parfois aussi place à des pédants des fourneaux pour remplacer nos vrais chefs et la meilleure de nos gastronomies. Alors comment, une fois que cette palombe si difficile à capturer est quand même dans nos filets ou dans notre musette, comment l'accommoder ? Plusieurs méthodes, bien sûr, président à sa préparation. On va tenir compte, bien sûr, de son état, de son âge certainement, de son côté dodu, plus ou moins dodu. Comment accommoder la palombe ? Bien, les deux plus grandes recettes que nous connaissons, c'est plutôt le salmi de palombe ou alors la palombe rôtie. Alors le salmi, on pense plutôt aux palombes qui ont volé un peu, qui sont un peu plus vieilles. On disait autrefois qu'on les curait avec un caillou et quand le caillou était cuit, la palombe aussi. Bon, c'est peut-être sûrement beaucoup exagéré parce que si vous les cuisez plusieurs fois une heure dans une préparation adaptée, à mon avis, elles seront très très tendres et absolument délicieuses. Alors pour moi, qui ne suis pas un grand chef, comme je viens de vous le dire, je les cuisine en cocotte. Je prépare d'abord un petit hachis, bien sûr, naturellement, avec des carottes coupées fines, avec de l'échalote, de l'oignon. Je monte avec du jambon de cochon noir, bien évidemment, puisque je puis le faire. Et je mets dedans un petit fond de jus de vin blanc, si possible un peu doux, voire même liquoreux en ce qui me concerne. Je fais revenir tout ça et quand tout ça est fait, je fais passer mes palombes coupées en deux et légèrement épicées dans ma cocotte, dans mon fond de jus. Je les fais dorer à souhait, je les réserve. Et quand tout cela est prêt, eh bien, je prépare mes palombes pour les poser sur des rôtis que je vais arroser légèrement de jus. On va finir de cuire ces palombes dans un jus couvert à partir exclusivement de vin liquoreux et d'eau. Je fais avec du thym, bien sûr, naturellement, et quelques herbes. Je vais recorriger l'assaisonnement. Les palombes vont cuire 1h30. Puis une deuxième fois, 1h, à feu très 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 doux, le plus doux possible, le plus petit possible. Et la troisième fois, j'y ajoute, mais c'est personnel, quelques cèpes et quelques girolles pour assurer, bien sûr, naturellement, le parfum et l'équilibre entre les différentes matières, les différentes textures. Mais la palombe, je vous l'assure, au bout de 3 heures, est parfaitement cuite, se défait parfaitement, libère tous ses jus et ce côté sucré qui va se mêler à l'oignon et à l'échalote, vous allez voir, et aux champignons, avec un petit peu de crème si vous le souhaitez. Moi, je n'en mettrai pas. Voilà, sera quelque chose, un plat unique que vous allez apprécier et vous fera changer d'avis par rapport à la cuisine au vin rouge. Mais ça n'est que mon point de vue. Donc, le civet, bien évidemment. Deuxième méthode pour les palombes qui sont plus jeunes, qu'on appelle ici le pipi, où c'est la petite palombe tendre, ou la palombe bien dodue, qui s'est gavée de maïs, qui a cette jolie pellicule blanche entre la peau et la chair. Alors pareil, je la prépare en deux, mais en crapaudine, on l'ouvre par le dos et on va la laisser macérer dans de l'huile d'olive, des herbes, un peu de sel, de poivre. Et moi, je la ferai plutôt au barbecue ou sur la braise, un peu à la goutte de sang, c'est-à-dire pas saignante bien sûr, mais quand même rose, très rose, pour qu'elle puisse être parfaitement tendre. Et au dernier moment, je vais la flamber au lard avec mon capucin, c'est-à-dire ce cône percé où on fait grésiller des fines lamelles de poitrine de cochon, pas du bacon, de la ventrèche. Ne mélangeons pas les genres. Et avec délicatesse, je vais arroser pour le parfumer, faire claquer cette peau de la palombe avec cette ventrèche très très chaude et très odorante qui va me parfumer ma palombe. Alors là, je pourrais l'accompagner de sauce aux cèpes, de cèpes et de girolles poêlées, mais aussi d'un jus que je pourrais avoir récupéré à côté, qui sera fait de la même façon que la préparation de la palombe en cocotte. Donc, ceci, bien sûr, naturellement, demande un petit coup de mer, mais pas grand-chose. Il faut être attentif, surtout à la qualité de la chair de cette palombe, qui est une chair très douce, un peu comme le pigeonneau, mais un peu plus faite quand même que le pigeonneau. Donc, elle est très tendre, je le rappelle. N'hésitez pas à la laisser vraiment rose. Vous verrez que le goût est somptueux et très, très, très délicat. Alors surgissent bien sûr les commentaires des Gascons, imaginez-vous près de la table, dans cette cabane de palombière, ou heureux, loin du monde de la ville qui nous attaque tous les jours, bien sûr, sans savoir, et qui ferait mieux d'accepter une invitation en palombière, parce qu'elle passerait un bon moment. Eh bien, les esprits autour de la table s'échauffent un peu, bien évidemment. C'est le moment de déguster ce mets, dans un contexte aussi particulier, au milieu de ces odeurs sauvages de la nature automnale. Alors les blagues fusent bien sûr, les exploits présumés exacts et passés bien évidemment sont légion, le chef de cabane souvent ayant le dernier mot. Je me souviens de mon père très ouvert pour toute forme de discussion et qui était terriblement obtus autour de ses deux passions, la chasse et la musique. Rien n'était laissé de côté, tout alors était important bien sûr et capital, la moindre faute prenait une tournure incommensurable. Il nous livrait alors avec virtuosité, quelques poèmes à Gascon en vers, toujours très beaux, parfois à peine teintés d'une grivoiserie tout à fait délectable. La gastronomie ne quittait jamais ce lieu et les alliances fantastiques se succédaient. C'était forcément, en même temps que la chasse, des journées à thème, l'occasion de déguster une bécasse et un huit Saint-Georges, de déguster un chevreuil en cuisseau, mais aussi et surtout des petites côtelettes avec de la purée de marron et de la confiture de groseille, avec les plus grands médocs qui étaient dans notre cave, et souvent des vieux, mais aussi une cocotte, comme j'en ai fait une fois il n'y a pas encore très longtemps, de grives aux sauternes, aux hachis et aux sauternes, avec des petits oignons blancs, une pure merveille de dégustation. Parfois, bien sûr, à l'époque où c'était possible, nous faisions aussi quelques belles poêlées de pinson et d'alouettes poêlées. On ne parlait jamais, bien sûr, de l'ortolan qui lui se consommait en cercle familial fermé. Mais tout ça, c'est du passé, n'en parlons plus, comme dit la chanson. Concernant les anguilles, elles se consommaient plutôt au printemps ou lors de petits repas de préparation de la palombière que nous faisons, bien sûr, dans la cabane, mais en dehors de la période de chasse. Alors, heureusement, à l'heure où tout le monde est systématiquement contre tout, la palombe est encore défendable puisque elle abonde, autant que faire se peut, elle est même en développement, presque à la limite du nuisible. Et la nourriture abondante laissée par l'excessive monoculture de maïs la rend dodue à souhait. D'ailleurs, nous aussi sommes dodus à souhait et c'est sûrement tant mieux. On dit qu'il vaut mieux faire envie que pitié. Je le pense aussi. Un proverbe belge dit même que les femmes sortent avec les maigres et rentrent avec les gros. Bon, ça reste encore à prouver. Mais que tout qui est bien, comme disait ma grand-mère, c'est-à-dire tout ce qui est bon nous remplit la panse et quelque part, ça c'est un grand bonheur. C'est un monde de gourmandise pour tous les gourmandas. Alors la prochaine fois, je vous le promets, je vous raconte l'histoire du civet de sanglier mais vegan. Bon non, je rigole. Retrouvez Lou Gourmandas en podcast sur le site www.radio-mdm.fr. Adichas, à bientôt.